Hey, bonjour, c'est Oasis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast, de ce FluRSS, de ce podcast expérimental. On va parler pour cette fois-ci de voyage parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai commencé un peu à voyager ces dernières années et j'aimerais vous en faire part et surtout donner envie à ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de trop voyager ou qui ont un peu la crainte, Je vais raconter mon histoire et j'espère que ça vous donnera envie pour la suite de vous y mettre aussi. À savoir que je vais principalement raconter un peu mon expérience et au fur et à mesure que je vais dérouler un peu tout ce que j'ai fait. C'est un peu égocentrique. Hein, j'aime pas trop faire ça, mais je me dis que c'est le meilleur moyen de faire ça comme ça que de faire sujet par sujet et de faire quelque chose d'assez carré. Là, c'est un peu plus, je vais juste vous parler et dire quand il y a un tips, quand j'ai des conseils à faire ou des recommandations à faire ou pas. Et puis vous parler un peu de ce que j'ai vécu. Alors pour commencer, j'ai commencé vraiment à voyager de manière sans mes parents, sans papa, maman, on va dire. En 2014, donc à l'époque j'avais 18 ans, et c'est avec un ami de lycée où nous avons commencé à. Nous voulions partir en voyage. À l'époque, nous ne travaillions. On avait un budget assez limité. Et du coup, nous sommes partis 10 jours. Nous sommes partis 10 jours. Nous n'avons pas fait des destinations très éloignées. Nous sommes partis à Amsterdam, Berlin et Stuttgart en Allemagne. Nous avons fait une grosse boucle. Notre point de départ, c'était Rennes. Nous avons fait une dizaine de jours environ. Nous avions trois villes à visiter. Donc pour commencer, nous sommes partis à Berlin. Ah pardon, à Amsterdam, n'importe quoi. Mon master Amsterdam, en fait, pour y aller, il n'y a rien de plus simple. Hein, vous prenez le train. Nous avons pris le TGV jusqu'à Paris. Et après, nous avons pris le Thalys jusqu'à Amsterdam. Hein. Rien de particulier. Hein, c'est un train comme un autre. Rien d'exceptionnel là-dessus. Donc Amsterdam, je connaissais déjà un peu, j'étais déjà allé précédemment avec mes parents, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'y rester très longtemps, et surtout de visiter les mêmes choses que, faire forcément les villes que je voulais, ou tout ce que je voulais. Donc ça a été l'occasion de voir un peu plus les choses par nous-mêmes, de plus découvrir la ville, parce que nous avions plus de temps dans la ville. Nous avons, à l'époque, vu que nous avions un budget assez léger, on logeait pas en hôtel, parce que l'hôtel c'est cher. Et du coup, nous avions choisi auberge de jeunesse. Alors, c'était une auberge de jeunesse dans le centre-ville. C'est une auberge de jeunesse. Alors, c'était pas la meilleure expérience de ma vie, celle-ci. À l'époque, c'est pas moi qui avais fait ce choix-là, c'était du coup mon ami qui m'avait. Donc il m'a dit, on prend ça, j'avais dit, oui, vas-y, je te fais confiance. Et c'était une auberge de jeunesse, où nous avions pris à l'époque, il y avait des gros, on avait pris des lits dans le plus grand dortoir possible, c'était 18 ou 20 personnes, je sais plus. Et ça a été assez compliqué, dans le sens où, pour dormir, ça allait. Mais au niveau des commodités, c'était assez basique. C'est-à-dire que les douches, c'était les douches collectives au bout du couloir. Les dortoirs et les lits, c'est assez classique. On les superposait, rien de particulier. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'espace commun pour discuter et rencontrer d'autres voyageurs qui auraient pu être dans l'auberge de jeunesse. Et que surtout, il y avait une sorte de... Je crois qu'on pourrait dire un couvre-feu à partir de minuit où du coup, il fallait plus parler dans les couloirs et c'était pas forcément le moyen le plus simple de rencontrer du monde. Donc c'était un peu dommage pour ça. De mémoire, nous avions rencontré quand même, je crois que c'était un New Yorkais, quelqu'un qui venait des États-Unis, avec qui on avait un peu sympathisé et avec qui on était sortis. Mais voilà, c'était pas la meilleure chose au monde qui nous soit arrivée. Ça a été une entrée un peu brutale. L'avantage qu'il y avait à tout ça, c'est que j'ai plus les prix en tête, mais que forcément, c'est moins cher qu'un hôtel. Vous doutez bien que quand vous dormez dans un dortoir avec 16 personnes, ça coûte moins cher que de prendre des logements dans un hôtel où vous avez juste une chambre pour deux personnes. Donc c'était pratique pour ça. C'est pratique aussi que du coup, généralement, les auberges de jeunesse, que ce soit celle-ci ou les suivantes dans lesquelles je suis allé, elles sont souvent... vous pouvez en avoir dans les centres-villes. Donc, assez proche de tout ce qui est visite, monuments, que ce soit même des fois des quartiers des quartiers avec plutôt de la vie nocturne, donc c'est plutôt pas mal pour ça. Rassurez-vous, c'est la seule que j'ai faite comme ça, et ça nous a permis du coup de savoir ce qu'il ne fallait plus choisir pour la suite. Et maintenant, j'ai quelques critères entre guillemets lorsque je choisis un logement, ce qui fait que j'ai jamais eu affaire à de très mauvaises, enfin des expériences moyennes comme celle-ci. Après, la ville d'Amsterdam en tant que telle, je me souviens que pour les visites, nous avions repéré quelques trucs à visiter. Par exemple, la maison d'Anne Frank, qui est un classique. Également, nous avions fait le musée des canaux d'Amsterdam, il me semble. Et le musée Van Gogh. Alors, les visites en tant que telles, au final, certaines étaient bien. Certaines étaient très intéressantes, comme par exemple le musée Van Gogh. La maison d'Anne Frank également, même s'il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est un lieu très connu. Donc au final, c'est des choses qu'il faut que si vous êtes intéressé, faites-les. Mais au final, je suis pas sûr que si, quand vous êtes dans une ville, il fasse forcément faire tous les musées de la ville si c'est juste pour faire des musées. Je veux dire, oui, vous pouvez en faire, mais si c'est par exemple, nous, je me souviens qu'à l'époque, on avait un peu meublé certes une ou deux journées, on avait fait le Rijksmuseum, Museum, excusez-moi pour la prononciation, je suis très mauvais là-dedans, où c'était avec des tableaux de sorte de musée des beaux-arts un peu d'Amsterdam. Au final, je me dis avec le recul qu'on n'aurait peut-être pas forcément dû le faire parce que bon, bah c'est oui, c'est sympa si vous aimez la peinture, allez-y, mais le but initial, c'était plutôt de visiter le pays et pas forcément de le visiter pour découvrir l'art du pays dans lequel on était. Donc c'était quand même pas mal. Le séjour a été, on avait peut-être visé un peu large. Je me souviens qu'on avait eu une journée peut-être, on avait un peu meublé, mais bon, dans l'ensemble, ça s'était plutôt bien passé. À noter, je me souviens également que bah, au niveau de tout ce qui est transport, ce qui est assez pratique dans cette ville-là, par exemple, c'est que vous pouvez tout faire à pied. On avait juste eu besoin de prendre les transports en commun, je crois, pour aller à notre auberge de jeunesse. Et qu'ensuite, sur place, on faisait toutes nos journées à pied. Il faut des bonnes chaussures, mais au final, c'est plutôt sympa. Surtout quand vous y allez, par exemple, au beau jour. Bah parce que du coup, vous visitez beaucoup plus la ville que passer de tunnel en tunnel. Donc, c'est plutôt pas mal pour ça. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, bah, on a changé de ville parce que du coup, on était à Amsterdam, on a switché sur Berlin. Nous avions fait le choix de voyager en transport de nuit. Il y a un avantage à ça, c'est que ça fait économiser une nuit dans un logement parce que du coup, vous êtes dans le on avait pris le car, je me souviens, le bus de nuit. Ça a été une expérience assez folklorique. Parce que c'était un car qui était blindé, que du coup c'est des cars, c'était pas des cars couchettes, hein, c'était un car-car, et que bah un car blindé où t'as pas un siège très confortable, bah du coup ça rend pas le voyage très fun. Je me souviens pas que j'avais pas beaucoup dormi, que ça sentait un peu la mort dans le car, ça m'a vacciné pour la suite. Hein. Pour la suite du trajet, on en a encore pris, mais je Depuis cette période-là, c'est bon. J'ai donné pour ça. C'est pas cher, effectivement. Mais je reprendrai pas ça. D'autant plus que bah, c'est assez lent. Que du coup, bah, quand vous prenez le car, il peut arriver que si vous êtes sur des arrêts au milieu de la ligne, par exemple, parce qu'il peut arriver que le car ne fasse pas point 1, point A, point B, mais qu'il y ait des arrêts intermédiaires. Que vous soyez à la ligne, que vous soyez à l'heure et que vous avez rien, vous avez tout juste un panneau des fois avec la ligne de départ ou des informations concernant ce car. Je n'ai pas repris beaucoup depuis, donc je ne me souviens pas forcément de est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce que des fois vous avez plus de détails ou des représentants par exemple de la compagnie ou un bureau de la compagnie. Mais moi je me souviens que bah, tu es un peu livré à toi-même et tu sais pas, t'as pas d'information si le car il est en retard, s'il est à l'heure, c'est un peu dommage pour ça. Donc, mais bon, ça nous a permis d'économiser une nuit de transport. On était parti très tard le soir, on avait pris 23 heures, je crois, pour arriver le lendemain à Berlin. On est arrivé vers 8-9 heures. Un peu claqué, un peu décalqué, surtout qu'à l'époque, c'était l'été. Du coup, bah, il faisait super chaud. Et mais bon, voilà. Si vous avez un petit budget, c'est un moyen de voyager assez facilement pour un coût assez raisonnable. Par contre, faut prendre en compte que niveau confort, bah, c'est pas le mieux et que surtout derrière, c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des transports où vous aurez une paire de sièges, deux sièges côte à côte pour vous, et vous pourrez prendre un peu plus vos aises et pas forcément être rangé en rang d'oignon tous côte à côte. Donc là, ça peut être un peu plus confortable pour étendre ses jambes, mais que si le car est blindé, c'est un peu tant pis pour vous, il faudra survivre comme ça, quoi. Donc c'est moi j'en suis un peu mitigé et honnêtement, pour les voyages suivants que j'ai faits, ça a pas été. Je recherche plus vraiment là-dessus. Donc du coup, ensuite nous avons fait Berlin. Berlin, une très grande ville. Il faisait encore très très chaud. Nous avions également choisi une auberge de jeunesse qui était au pied, pas très loin de la tour de télévision de Berlin. Je n'ai plus le nom en tête. Je suis désolé. L'auberge de jeunesse cette fois-ci était très très bien. C'était une chaîne d'auberge de jeunesse qui s'appelle St. Christopher's Inn, qui était vraiment pas mal. Donc les dortoirs, on était dans un dortoir de 8, je crois, qui était très très bien, plutôt, qui était très propre, avec des chambres mixtes, mais au final, ça dérange pas. On dormait plutôt bien, et puis là, on avait. Pour dormir, c'était plutôt silencieux. L'avantage également de cette chaîne St. Christopher's Inn, c'est que généralement de celles que j'ai faites, en tout cas, ce que j'en ai fait plusieurs, vous avez un bar au rez-de-chaussée qui est également ouvert dans celles que j'ai faites, qui était également ouvert au public. Et du coup, bah, ça vous permet de vous descendre, vous pouvez discuter avec des gens et ça permet de rencontrer du monde assez facilement. C'est un de mes critères de choix pour la suite, du coup, ce genre de choses, c'est que, du coup, quand vous avez une auberge de jeunesse, c'est que, là, on voyageait à deux, mais c'est la même chose quand on voyage en solo, c'est que, si vous prenez un bar, ça permet déjà de vous poser, d'avoir des espaces communs où vous pouvez vous poser, des fois, il y a ça permet également, c'est généralement, il y a aussi le petit déjeuner qui peut être offert qui peut être fourni dans ce genre d'auberge de jeunesse, donc c'est plutôt bien pour ça. Également, ça permet que du coup le soir, bah, les gens des fois avant ils sortent pas forcément dans les bars à 3 km à la ronde, mais ils sortent, ils vont dans le bar qui est au rez-de-chaussée parce que bah du coup c'est facile, c'est à côté, et que bah vous remarquez, j'ai remarqué, c'était la première fois, c'était la première découverte, j'étais encore jeune et je découvrais tout juste que les voyageurs qui sont assez ouverts à la discussion. Alors évidemment, faut maîtriser l'anglais. Parfois, ils parlent français, vous pouvez croiser quelques français, mais là, 99% du temps, faudra parler anglais. Mais que du coup, ils sont assez ouverts à la discussion, que ce soit pour passer la soirée, pardon, ou même la journée. Et que c'est plutôt pas mal pour ça. Ça permet de vous faire des connaissances, bah, parfois juste pour la soirée, ou ça peut, des amis pour des compagnons de voyage ou des amis tout court, quoi. Qui après, vous pouvez vous retrouver ailleurs dans diverses autres occasions. Berlin, c'est bien, c'est très grand. J'en ai un très mauvais souvenir. J'ai un très bon souvenir de la ville au final avec le recul, mais à l'époque, je me souviens qu'il faisait très chaud, que j'avais pas du tout anticipé le fait de prendre des bonnes chaussures et que du coup, bah, j'avais mal aux pieds. J'avais eu des énormes ampoules parce que j'avais juste pris des chaussures qui avaient une semelle qui font 5 mm d'épaisseur et que bah, Berlin, c'est vraiment immense. Et que bah, quand tu marches 2 heures et qu'il fait très chaud, bah, du coup, bah, les ampoules, au bout d'un moment, c'est un peu la catastrophe. Ça a été un des gros points noirs de ce voyage. C'est que bah, du coup, à partir de Berlin, j'ai eu des ampoules jusqu'à la fin du voyage. Et que bah, vous faire avec, hein, faut tenter de les traiter. Faut aller dans les différentes pharmacies pour tenter d'expliquer que tu as mal aux pieds, qu'il faudrait des pansements pour les ampoules. Bien sûr, en anglais. Non, c'est pas drôle. Il suffit que la personne ne parle pas anglais en face de toi, bah, pour comprendre, c'est beaucoup plus compliqué d'un seul coup. Mais je vous recommanderais, dans ce cas-là, de prendre les... Enfin, dépend où vous voulez aller, ce que vous voulez visiter, mais de plutôt prendre tout ce qui est transport en commun, taxi, si vous avez plus de budget, si vous voulez. Et par contre, après, sur place, de bien sûr, pas hésiter à beaucoup marcher, beaucoup voyager, beaucoup vous balader. C'était, voilà, c'était plutôt une bonne expérience. Je me souviens qu'on y était resté 4 jours, je crois, 4 jours, je sais plus exactement. Mais que c'était largement, c'était pas assez, tu pouvais rester une semaine facile. Il y a largement de quoi faire. C'est également là qu'on a découvert, enfin que j'ai découvert en tout cas, que certaines auberges de jeunesse proposent des fois ce qui s'appelle des free walking tours. Alors c'est des visites guidées où vous payez au pourboire à la fin de la visite. Je vous conseille de les faire globalement. Alors, il y a plusieurs, après, il y a plusieurs manières de les faire. Soit c'est, ils sont associés à un organisme, en fait, ils prennent le groupe qui est l'auberge de jeunesse et ils vous déposent à un point de rendez-vous avec un guide qui est dédié pour ça. Soit c'est un des responsables de l'auberge, une des personnes qui gère l'auberge, qui vous fait la visite de la ville. Généralement, ça prend une demi-journée. Ça peut prendre, ouais, souvent c'est la demi-journée. L'avantage, c'est que ça fait les généralités de la ville, en fait. Ça fait les bases. Quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, que vous voulez découvrir, vous pouvez le faire par vous-même. L'avantage de le faire avec ce genre de moyens, c'est que du coup, déjà, vous voyagez avec des personnes qui sont comme vous. Si c'est un groupe de l'auberge de jeunesse, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, des voyageurs en solo et tisser des liens, ce qui peut être pas mal pour ça. Et également que le guide vous présentera les choses basiques. C'est un peu comme si vous en faisiez un à Paris, du coup, il vous montrera les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris. Vous voyez quoi, les classiques de la ville. Après, il peut également vous faire des recommandations, ou généralement vous pouvez même poser des questions sur les choses qui seraient plus intéressantes, enfin, si vous le souhaitez, pour vous dire là, c'est si vous aimez bien ce genre de, j'en sais rien, l'art par exemple, ou je sais pas, un musée plutôt sur la guerre, etc. Bah, celui-ci, très bien, c'est pas mal pour les recommandations sur les choses à visiter. Vous pouvez également, des fois, alors, dans certaines villes également, il y a ce genre de guide qui est proposé. Vous tapez, je sais pas, Free Walking Tour, puis la ville dans laquelle vous êtes. Il n'y en a pas dans toutes. Mais il y en a quand même dans une bonne majorité, dans toutes celles où je suis allé, j'en ai souvent rencontré. L'avantage de ça, quand c'est plutôt sur des organismes, et que vous, c'est juste des gens comme, enfin, que c'est en gros, il y a un point de rencontre à un endroit, vous y allez. Parfois, faut s'inscrire, mais vous y allez, quelqu'un vous fait visite, vous payez un pourboire à la fin. L'avantage de ça, c'est que vous avez des locaux de la ville. Parfois, c'est des étudiants ou des personnes qui connaissent vraiment bien la ville. Et du coup, ben, ils savent quoi vous conseiller. Dans le sens où ils voient bien que si vous êtes un public plus jeune, ils vont peut-être vous dire ce genre de quartier, c'est plus sympa pour la vie nocturne, ça, c'est plus sympa. Voilà, c'est des personnes qui vraiment, qui des fois, qui connaissent leur endroit, qui connaissent leur ville et qui du coup sauront quoi vous conseiller. Parce que ils y vivent et qu'ils ont déjà côtoyé ça ou ça ou ça. Ça peut être un complément à votre guide du routard ou autre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour ça. Amsterdam après, pardon, Berlin, c'était bien. Je me souviens qu'on avait fait des visites guidées. Elles étaient intéressantes, mais bon, après, on a fait un ou deux musées où finalement, après que le recul, on n'a peut-être pas dû les faire. Les gros monuments, je me souviens qu'on n'avait pas pu tous les faire parce qu'on était durant l'été et qu'il y avait beaucoup de monde et qu'on s'est fait recaler plusieurs fois. Donc un peu anticipé, si vous souhaitez vraiment visiter des monuments, ne pas hésiter à regarder sur Internet, à réserver sur Internet, ça vous évitera de faire la queue de manière assez régulière. Si vous êtes français, vous avez une carte SIM d'un forfait européen, l'avantage c'est que du coup, si vous avez un forfait avec Internet, vous avez de très fortes chances d'avoir Internet également à l'étranger. Pas forcément dans la même quantité de data que dans votre pays d'origine, mais du coup, ça vous permet de faire des recherches ou même de réserver la veille pour le lendemain ou de prendre des renseignements la veille pour le lendemain et pas de vous faire avoir à poireauter 3 quarts d'heure, 1 heure qui auraient pu être consacrés à, je sais pas, à vous poser dans un parc ou visiter autre chose. Donc, c'est une des recommandations que j'aurais à vous faire à ce propos. Après, Berlin, c'est vraiment sympa. C'est une ville qui est très très grande, qui est très orientée, qui est très moderne. Forcément, la Seconde Guerre, elle a pas mal souffert. Du coup, elle est assez moderne, assez dynamique. Il y a beaucoup de street art. Beaucoup, beaucoup de street art. Donc, c'est vraiment très très. C'est vraiment sympa pour ça. Si vous aimez, ce genre d'ambiance, je recommande beaucoup. L'avantage, c'est qu'elle est très grande. Il y a pas mal d'espaces verts un peu partout. Donc bah même des fois dans le centre-ville, il y a des endroits, il y a des parcs où vous pouvez plus prendre votre temps, vous poser pour un peu respirer l'ambiance de la ville, c'est plutôt sympa pour ça. Voilà, après, pour ce qui est plutôt du temps pour visiter les villes, alors je dirais pas forcément si vous voulez vraiment faire le tour de la ville, je dirais pas une journée ou deux. Il faut généralement, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder sur internet. Moi, pour ma part, j'épluche pas mal je crois que c'est le forum du routard, qui édite les guides du routard que vous connaissez sans doute. Où généralement, c'est des gens qui posent des questions ou qui échangent à ce sujet sur combien de temps la personne recommande pour visiter des villes, des expériences passées de membres de ce forum pourront vous aider. Même vous dire combien de temps il vous recommande. Enfin bref, ça peut être intéressant pour ça. Parce que bah du coup, le problème c'est que si vous sous-estimez, vous serez frustré parce que vous n'aurez pas eu le temps, forcément eu le temps de voir tout ce que vous voulez. Ou alors vous irez un peu trop au pas de course. Et le problème avec ça, c'est que bah du coup, vous aurez même pas. Oui, vous aurez fait toutes les visites que vous voulez, mais vous n'aurez pas pu un peu flâner également, parce que vous êtes en vacances quand même. Hein. Enfin, généralement, vous êtes en vacances ou c'est du temps libre que vous avez pour visiter ce genre d'endroit. Et ça peut être dommage si, bah, du coup, vous avez juste eu le temps de courir d'un musée à un autre ou d'un monument à un autre, juste pour pouvoir dire, bah, j'ai fait, je sais pas, tous les grands monuments de la ville dans laquelle j'étais. Donc, c'est dommage, c'était un peu dommage pour ça, mais bon, voilà. C'est là. Et par contre, ouais, par contre, le problème qu'il y a, entre guillemets, le problème qu'il y a, c'est que si vous surestimez le temps de la ville sur place. Bah, ça dépend dans quelle ville vous êtes, mais il y a des villes où, bah, une fois que vous avez fait le tour, oui, c'est sympa, mais il y a des monuments intéressants. Mais des fois, il y a des villes où, si quand vous avez fait le tour, vous pouvez un peu flâner ou, je sais pas, envoyer des cartes postales, des choses comme ça. Mais si vous avez surestimé de 1 ou 2 jours, bah, au d'un moment, vous allez un peu tourner en rond. Alors, dans ce genre de cas, moi, ce que je recommande, si vous avez un peu de budget supplémentaire, c'est de ne pas hésiter à regarder dans les villes alentours. C'est-à-dire de pas hésiter à regarder, je sais pas, par le train ou le bus ou même parfois le taxi ou des groupes vistes comme ça pour faire une excursion d'une journée dans une ville voisine. Parce que bah du coup, c'est bête de juste traîner dans une ville ou dans un lieu parce que vous avez perdu du temps. Ça demande un petit peu d'argent supplémentaire. Si vous avez un budget un peu limite, ce sera un peu compliqué. Mais ça peut vraiment être intéressant si vous avez 1 heure ou 1 heure et demie de transport. Voilà, n'hésitez pas à faire ça si vous pensez que si vous remarquez sur place que vous avez surestimé le temps sur place par rapport à ce que vous vouliez visiter. C'est une bonne indication, ça peut être intéressant. Alors après, pour ce qui est de Amsterdam ou même Berlin ou même toutes les villes en règle générale, vous inquiétez pas par rapport à la langue, vous inquiétez pas trop. Oui, effectivement, si vous ne parlez pas hollandais ou allemand, vous allez, oui, vous comprendrez pas ce qui est écrit, mais vous inquiétez pas. C'est comme en France, c'est-à-dire que vous prenez la France, vous adaptez un peu à l'Allemagne, mais globalement c'est la même chose, quoi. Je veux dire, on n'est pas très loin, on a des modes de vie assez très similaires ou assez similaires, ce qui fait que vous serez pas perdu. Il y aura peut-être quelques mots, il faudra trouver le traducteur pour, je sais pas, pharmacie par exemple ou des choses comme ça, mais ce sera pas très très compliqué. Et c'est pas le plus gros problème. Il faut quand même parler anglais, évidemment, mais pour ce qui est des basiques, dans les lieux touristiques, ça parlera quasiment forcément anglais. C'est pas très compliqué pour ça. Et pour tout ce qui est après le commun, quand vous êtes dans une grande ville, la France, on n'est pas bon pour ça, mais que généralement vous parlez anglais, la personne en face soit appellera un collègue, elle, qui parle anglais, ou alors vous parlera anglais. C'est dans les grandes villes, les lieux touristiques, c'est assez automatique ce genre de choses. Donc, faut pas trop s'inquiéter sur le problème de la barrière de la langue. Je ne parle pas hollandais, je ne parle pas allemand, et pourtant, on ne parlait pas hollandais, on ne parlait pas allemand, et pourtant, on s'en est très très bien sorti lors de cette excursion. Alors, ce voyage, pardon. Donc ensuite, nous avons changé et fait notre troisième et dernière ville, qui était Stuttgart. Alors Stuttgart, si vous ne voyez pas, c'est dans le sud de l'Allemagne. C'est à peu près, je crois, une heure ou une heure et demie de la frontière française. Je dis peut-être une grosse bêtise, pardon, si je ne suis pas bon là-dedans. Mais on voulait aller là-bas parce que on aimait bien les voitures et que du coup, Stuttgart, c'est le lieu où vous avez Porsche et Mercedes qui sont installés. Et du coup, on a passé 2 jours là-bas. On a visité notamment le Porsche Museum et le Mercedes Museum. Stuttgart en tant que tel, pour le coup, c'est un léger regret, c'est qu'on a pas eu, j'ai pas eu le temps de visiter la ville. Mais le Porsche Museum Stuttgart, vraiment, si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. Si vous aimez un peu les voitures, si vous aimez un peu ou si les belles voitures, les choses comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter. J'ai encore souvenir du moment où je suis arrivé, où on est arrivé, il y a un rond-point où d'un côté vous avez le Porsche Museum, et tout autour vous avez des concessions ou des gros bâtiments Porsche. T'es un peu au paradis, quoi. Mais c'est vachement bien pour ça. C'était vraiment très très bien. Tu peux y passer une demi-journée sans problème, en prenant ton temps, en prenant tes photos. Nous, quand on y était, il y avait vraiment pas grand monde. Du coup, c'était super confortable. On pouvait vraiment prendre notre temps, prendre les photos, regarder, lire le texte sans problème. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien pour ça. Mercedes Museum, par contre, j'en suis un peu plus mitigé. Effectivement, Mercedes, c'est bien. Mais Mercedes, comparé à Porsche, ça fait pas juste des voitures, des sportives et des belles voitures de luxe. Ça fait également des utilitaires, c'est une marque qui est beaucoup plus énorme au niveau de ses activités. Du coup, il faut savoir que vous aurez pas forcément que des voitures de sport. Vous aurez également la section avec, les utilitaires, avec c'est beaucoup plus varié en fait. Donc si ça peut ne pas vous déranger, moi j'étais un peu déçu, surtout que c'était dans l'enchaînement du musée Porsche où du coup j'ai beaucoup pris beaucoup plus de plaisir parce que Porsche est très orienté sport automobile. Mercedes, vu que c'est beaucoup plus varié, du coup le musée Mercedes est également très varié. Donc du coup il y a une grosse partie du musée où je me suis intéressé, mais c'est pas les meilleurs souvenirs que j'en ai. Bon, voilà, ça vaut le coup d'y aller, faire une journée, faire ce musée. Vous n'êtes pas très loin, n'hésitez pas, c'est vraiment, vraiment bien. Je me souviens que pour voyager entre Berlin et Stuttgart, pardon, on avait pris également le car. 2 jours, cette fois-ci, on était parti très, très tôt. On était parti à 6h du matin, je crois. On est arrivé vers 19h le soir là-bas. Cette fois-ci, ça s'était plutôt bien passé parce que il n'y avait pas grand monde dans les transports en commun, que du coup, pour ma part, j'avais réussi à bien me reposer et plutôt dormir parce que forcément, le soir, je ne me couchais pas à 20h. Donc, c'était plutôt pas mal pour ça. Un petit conseil surtout, n'hésitez vraiment pas à prendre un coussin gonflable que vous mettrez dans votre sac. Ça prend pas de place. Et quand vous prendrez le train, le bus ou même l'avion, ça peut être pas mal. Du coup, vous aurez quelque chose pour poser votre tête qui sera plus confortable que de prendre votre manteau, votre pull roulé en boule. Après, je dis pas forcément les coussins qui vont autour du cou. Personnellement, j'aime pas trop ça. Ça tient bien la tête, oui, mais j'aime pas pour dormir, je trouve ça pas terrible. Somnolé peut-être, mais je sais pas, ça vient de moi peut-être, mais c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Berlin est également une auberge jeunesse, comme je l'ai dit, Stuttgart aussi. Stuttgart, c'est une ville qui est beaucoup moins attrayante au niveau touristique, forcément. Nous, l'auberge jeunesse que nous avions faisait un peu plus hôtel. C'est-à-dire que c'était une auberge jeunesse tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a des dortoirs, il y a des chambres, il y a un espace commun qui n'était pas très très grand, mais un espace commun. Mais du coup, vous aurez certaines. Il y a un point important à savoir, c'est que certaines auberges de jeunesse, vous aurez une limite d'âge. Les grosses structures dans les grandes villes, parfois vous aurez une limite d'âge, ce sera, je ne sais pas, 30, 35 ans. Dans les plus petites villes, il peut arriver que les choppers de jeunesse n'aient pas la limite d'âge et que du coup, bah, vous ayez des voyageurs comme des voyageurs entre 20 et 30 ans. Mais également, vous pouvez rencontrer parfois des familles, je sais pas, des... Je me souviens j'avais croisé des ouvriers le matin au petit déjeuner, par exemple, parce que du coup, ça coûte moins cher que l'hôtel. Et si c'est une auberge de jeunesse qui est plutôt calme, c'est pas plus mal, ça leur permet de faire des économies. Voilà, faut le savoir. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça, voilà, il faut le savoir. Donc voilà. Ensuite, pour revenir de Stuttgart, du coup, où nous avons passé 2 jours, nous avons pris le quart de nuit. Cette fois-ci, ça s'était plutôt bien passé parce que le car était pas très rempli. Et donc, du coup, j'avais réussi, je me souviens, avoir réussi à bien dormir. Enfin, bien dormir. Tout est relatif, mais j'avais réussi à dormir quelques heures et du coup, à arriver sur Paris avec quand même quelques heures de sommeil et à être plutôt en forme pour la suite. Voilà. Après, un coup de TGV pour rentrer sur Rennes et voilà. Donc, c'était plutôt ce premier voyage. C'était voilà un peu le récit dans les grandes lignes de ce premier voyage. Je sais pas trop s'il y a des sujets que vous auriez aimé que j'ai passé de manière un peu plus vite que vous auriez aimé que je développe. N'hésitez pas pour la suite. Je pense que si ça plaît, ce genre de sujet, je continuerai. Alors ça fait un peu crise d'ego, mais à raconter mon expérience. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai que 24 ans, mais voilà, ça peut toujours être quelque chose qui peut être intéressant, donner envie aux gens de voyager, parce que c'est quelque chose que je trouve de merveilleux, de découvrir le monde. Donc voilà. J'espère que également la qualité du son avec ce nouveau micro sera très bien pour vous. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter, que vous prendrez plaisir à le partager autour de vous. Et puis, ben, on se retrouve pour un nouvel épisode, j'espère avec un écart un peu moins important que celui qu'avec le précédent, qui a fait quand même un peu plus d'un mois. Mais plus d'un mois, c'est sûr. Donc voilà. Donc bah on se retrouve pour la suite. Et puis d'ici là, bah portez-vous bien et puis faites-moi des retours. Et puis bah à plus, salut, bye bye.